Nous étudions ensemble cette lettre aux Colossiens dans le but d'enraciner notre foi. À quoi servent les racines d'un arbre? Eh bien, les racines lui donnent la nourriture. Il puise dans la terre la nourriture, les nutriments qu'il lui faut. Et puis, les racines aussi lui donnent une stabilité. Et vous savez, c'est quasiment impossible de renverser un arbre simplement en poussant, même en poussant fort, à cause de ses racines. Et c'est ça que Paul veut que pour ces chrétiens à Colosse, pour nous aussi, qu'ils ne soient pas renversés, qu'ils ne soient pas déstabilisés. Alors ce matin, nous entrons dans le vif du sujet de cette lettre, et vous allez voir dans les versets que nous allons lire que Paul avertit les Colossiens d'une erreur qui semble se propager dans l'Église et qui peut déstabiliser leur foi, qui peut les déraciner. Mais il va les appeler à s'enraciner en Jésus-Christ. Donc je vous invite à lire avec moi Colossiens chapitre 2, versets 6 à 23. Colossiens chapitre 2, versets 6 jusqu'à la fin du chapitre. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été donnés et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelé avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, dans tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposant ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc vous voyez dans ces versets, Paul met les chrétiens en garde contre certaines idées. Il appelle ces idées les doctrines des hommes ou bien une philosophie trompeuse dans le verset 8. Paul n'est pas contre la philo en soi, heureusement pour nous Français qui aiment la philo, mais il avertit contre une philosophie trompeuse qui s'écarte, qui s'éloigne de la vérité. Eh bien, on ne connaît pas exactement la teneur de cette doctrine des hommes, de cette nouvelle philosophie qui circulait dans l'église à Colosse. C'est un peu lorsqu'on écoute quelqu'un parler au téléphone, si vous êtes dans la même pièce avec quelqu'un au téléphone et vous n'entendez qu'une moitié de la conversation. Donc si vous êtes dans une pièce avec votre conjoint et votre conjoint dit au téléphone en parlant à quelqu'un d'autre, « Ah non! Oh non! Ne fais pas ça !» Alors ça vous interpelle et peut-être vous voulez savoir à qui il parle et vous essayez de comprendre le contexte et donc c'est un peu le cas ici. On a Paul qui dit non, pas ça. Et on se demande à qui il parle, contre qui il parle, et à nous de deviner à partir des éléments dans le texte, quelle est cette erreur qui circule à Colosse. Donc on ne connaît pas le titre exact ou la philosophie exacte, mais on sait que ces faux docteurs ont pris des éléments du judaïsme, ils ont pris des éléments du paganisme, et ils ont pris des éléments du christianisme, ils les ont mélangés ensemble pour faire une nouvelle sauce, une nouvelle spiritualité. Et il disait à ces chrétiens, si vous voulez vraiment connaître Dieu, si vous voulez vraiment avoir accès à Dieu comme nous, il vous faut cette nouvelle doctrine, cette nouvelle spiritualité, ces pratiques qu'on veut vous donner. Et Paul dit non, c'est pas ça. Et donc dans cette lettre, il va équiper les Colossiens et les aider à dépister les erreurs et les problèmes dans cette tromperie, cette nouvelle philosophie. Et il me semble qu'à notre époque, nous aussi, nous avons besoin d'être équipés, d'être enracinés dans la vérité, parce qu'autour de nous, il y a toutes sortes de discours, toutes sortes de pratiques religieuses. Comment savoir quel est le bon? Comment savoir ce qui correspond à la vérité, à la vraie spiritualité? C'est intéressant, vous savez que dans les pays occidentaux, on constate que le fait religieux, c'est comme ça qu'ils appellent l'expression de la spiritualité, le fait religieux est en progression. Ça peut nous étonner, on aurait pu penser que la France allait devenir de plus en plus athée avec le temps, mais ce n'est pas ce que montrent les données. La spiritualité existe bel et bien, encore à notre époque, autour de nous. Et les philosophes et les sociologues le constatent, et c'est pourquoi ils commencent à parler même de l'âge post-séculier. Pendant longtemps, on était dans l'âge séculier, mais maintenant, depuis peu, les philosophes et les sociologues parlent souvent de l'âge post-séculier. Et en tout cas, c'est peut-être votre expérience, mais je le constate aussi. Certainement, cela vous est arrivé de parler avec un collègue, un voisin, et de constater que même s'il dit qu'il n'est pas croyant, dans le sens classique, de constater qu'il admet qu'il y a des forces dans la nature avec lesquelles il essaie d'équilibrer sa vie, ou bien il pratique des formes de prière et de méditation qui relèvent du spirituel, même s'il dit qu'il ne suit pas une religion. En règle générale, l'Occident est de plus en plus attiré par la spiritualité orientale. J'étais étonné, l'autre jour j'étais au magasin La Farfouille, et je passais dans l'allée des décorations, vous savez, des tableaux, des décorations qu'on met sur le mur dans nos maisons, et j'étais étonné de voir que tous les tableaux, toutes les étagères étaient des images zen avec des citations de Bouddha. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Je ne sais pas si on mettra que des versets de la Bible ou des citations de Jésus à notre époque, parce que voilà, ça c'est peut-être mal vu, mais les citations de Bouddha avec des images zen, ça passe très très bien. C'est un peu la mode. Donc le constat, c'est que les Français sont de moins en moins religieux, mais ils sont de plus en plus spirituels. Vous me dites s'il faut changer le micro. Et aujourd'hui, la démarche, c'est on prend des choses de différentes religions, différentes philosophies, différentes traditions, et on mélange pour faire sa propre sauce personnelle. Ça, c'est la technique spirituelle de nos jours. Mais c'est cette démarche que je mets en cause ce matin. Ce n'est pas forcément le cas que le meilleur boisson est un mélange de toutes les boissons. Systématiquement, aux anniversaires des enfants, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, c'est trop bien, on va mettre tous les boissons ensemble, le coca, l'orangina, le jus, le lait », et il dit aux autres « Ah, c'est trop bon !» Et tout le monde fait ça, et à la fin, on met tout dans l'évier parce que c'est pas bon. Le meilleur métal n'est pas forcément un mélange de tous les métaux. La meilleure couleur de peinture n'est pas forcément un mélange de toutes les peintures. Et de la même manière, la meilleure spiritualité, la meilleure vérité n'est pas forcément un mélange de toutes les vérités. Et ça va être la mise en garde de Paul ici, dans ce chapitre. Mélangez pas toutes ces autres pratiques avec Christ. Vous avez déjà tout en Christ. Et donc Paul appelle ses Colossiens à discerner. Il va leur dire dans ce chapitre, faites attention aux erreurs et pour cela mettez l'accent sur Christ. Ça, c'est l'appel principal ce matin. Faites attention aux erreurs et mettez l'accent sur Christ. Alors, je propose d'appliquer ce critère à quatre domaines pour ne pas tomber dans une fausse doctrine. Et ça semble le cas ici. Christ est le rôle des esprits, Christ est le rôle des rites, Christ est le rôle des règles et Christ est le rôle du moi. Et souvent, les mauvaises pratiques ont des déséquilibres dans ces domaines-là. Le rôle des esprits, le rôle des rites, le rôle des règles et le rôle du moi. Parlons tout d'abord du rôle des esprits. Une marque d'une fausse doctrine, c'est un accent déséquilibré sur les esprits, les anges, les démons, les forces spirituelles. Et dans cette lettre, Paul en parle souvent, notamment la phrase « les dominations et les autorités » évoquent ces forces spirituelles, ce monde invisible des esprits. Vous trouvez en verset 10, il parle de toute domination et de toute autorité. Il en reparle en verset 15. Vous trouvez en verset 18, il évoque un culte des anges, peut-être traduit un culte avec des anges, mais en tout cas, on voit la présence de ces esprits. Mais le verset le plus intriguant, qui va attirer notre attention ce matin, c'est le verset 8. On trouve la même expression ici dans le verset 20, quand il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde. » Et cette phrase, « les principes élémentaires du monde », c'est quoi les principes élémentaires du monde? Alors c'est une phrase grecque très rare, assez difficile à traduire, donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le sujet. Mais littéralement, cette phrase, « les principes élémentaires du monde », ça veut dire le béaba du cosmos. Alors, Paul dit, attention à une philosophie qui s'appuie sur le béaba, les béaba du cosmos. Donc, ça, c'est pas, ça nous avance beaucoup. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, dans le monde gréco-romain, le monde païen de l'époque, selon les croyances, l'univers était composé de quelques éléments de base. Notamment, il y avait les quatre, l'air, le feu, le vent et l'eau. L'air, le feu, le vent et l'eau. Et ces composants basiques, ils pensaient que tout était fait à partir de ce béaba, ces composants basiques de l'univers étaient souvent associés à des forces spirituelles. On va changer. On verra si celui est un peu mieux. Donc je reviens, l'air, le feu, le vent et l'eau, qui étaient souvent associés à des forces spirituelles. C'est-à-dire, il y avait le vent, mais derrière, il parlait le dieu des vents. Ou bien il y avait l'eau, mais derrière, il y a le dieu de l'eau. Et vous savez que le paganisme en général, une vision païenne du monde, c'est de prendre un élément de la nature, prendre un élément de l'ordre créé, de le diviniser, de l'idolâtrer. Et d'adorer quelque chose de la création au lieu du créateur. Et donc, ces principes élémentaires, c'est pour ça que beaucoup de traductions mettent les forces spirituelles de ce monde. Et si vous voulez un autre éclairage, en Galates chapitre 4, verset 8, on trouve, c'est la seule autre fois qu'on trouve cette expression dans la Bible, et cela nous aide à comprendre. Paul dit aux Galates, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez être asservis encore ?» Donc vous serviez des dieux qui ne le sont pas, comme toute cette vision païenne du monde, et maintenant vous voulez retourner à ces principes élémentaires. C'est-à-dire ces forces spirituelles, dans la manière qu'ils vivaient leur vie, étaient tellement basiques, étaient partout, que toute leur vie tournait autour de ces choses. Et donc, les Colossiens, ils avaient cette même conception du monde, ils se convertissaient à Jésus-Christ, et normalement, ils n'avaient plus besoin de s'inquiéter de ces choses, mais ces faux docteurs venaient et ils disaient aux chrétiens qu'il fallait intégrer ces forces spirituelles, ces principes élémentaires dans leur culte, et dans leur pratique de la foi. Ça peut nous étonner, mais finalement, c'est un peu d'ailleurs ce que a fait l'Église catholique lorsqu'ils ont proposé aux gens de prier les saints, prier les défunts, lorsqu'ils ont mis en place toutes sortes de statues. C'était en quelque sorte pour offrir aux païens,
qui se convertissaient au christianisme, c'était pour leur offrir une équivalence à leur panthéon de Dieu pour qu'ils ne se sentent pas trop dépaysés en venant dans l'église. Mais Paul dit non, c'est pas compatible avec Jésus-Christ. D'ailleurs, aujourd'hui même, dans certains milieux où on pratique cet évangile de la prospérité, vous avez des pasteurs soi-disant évangéliques qui sont pas autre chose que des guérisseurs sorciers qui bénéficient des peurs et des pratiques païennes dans leur pays pour s'enrichir. Donc vous voyez comment des fois on peut mélanger une conception païenne du monde avec une pratique chrétienne. Et Paul veut pas ça pour ses Colossiens. En même temps, Paul ne bascule pas dans l'autre extrême de nier que le monde spirituel n'existe pas. Mais il va dire à ces chrétiens, non, vous n'avez pas besoin de passer par ces d'autres divinités, par ces forces spirituelles du monde, par ces principes élémentaires, parce que Jésus, il est pleinement divin. Toute la divinité habite en lui, et pas dans les autres. Il va dire que vous n'avez pas besoin de passer par eux. En verset 9, il dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur des autres esprits, parce que Jésus est le chef de toute domination, de toute autorité. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Donc on peut passer par Jésus-Christ parce qu'il est pleinement Dieu, il est pleinement homme, on n'a pas besoin de ses autres divinités et on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux non plus parce que Jésus les domine. D'ailleurs, Jésus est leur créateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas diviniser quelque chose de la création. Il n'y a que Jésus qui est créateur, qui les a créés. On a déjà vu ça en chapitre 1. Donc, il faut pas diviniser ni un arbre, ni un homme, ni un ange, ni un démon, parce que toutes ces choses ont été créées par Dieu, par Jésus-Christ. Et non seulement Jésus est chef parce qu'il les a créés, mais aussi parce qu'il les a battus, il les a dépouillés. Et Paul va expliquer ça dans le verset 15. Donc, non seulement il est le chef de toute domination et de toute autorité, parce qu'il les a créés, mais en 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, donc ça c'est les forces spirituelles, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et là, il prend une image du monde romain, qu'il connaissait bien. Les armées romaines aimaient bien faire les défilés triomphales, ce qui a inspiré un peu l'arc de triomphe, même à Paris. Mais après une bataille, l'armée romaine entrait victorieusement dans une ville, entraînant derrière l'armée les prisonniers, les perdants. Et ils étaient enchaînés, ils étaient dépouillés, ils étaient livrés en spectacle pour montrer la grande victoire de l'armée romaine. Et Paul dit, c'est incroyable, il dit que les faux dieux, les démons, les forces spirituelles contre Dieu, eh bien, ils ont connu le même sort lorsque Jésus est mort sur la croix. Lorsque Jésus nous a délivrés, lorsque Jésus a accompli le salut, eh bien les forces spirituelles contre Dieu ont connu cette même défaite. Ce sont eux les perdants et qui ont traîné comme les prisonniers. Et c'est pour ça que Paul peut dire à ses Colossiens, donc ne passez pas par ces choses. Mettez ces choses à leur juste place. Prenez garde de toute spiritualité qui vous pousse vers ces choses et non vers Jésus qui est leur chef, leur vainqueur. Même parmi les chrétiens, on peut trouver une certaine spiritualité, une certaine conception de la prière, par exemple, qui s'intéresse plus aux anges et aux démons qu'à Jésus-Christ. Et ça, c'est pas bon. Nous n'avons pas à traiter avec des autres êtres spirituels. Que ce soit des anges ou des démons, que ce soit des forces ésotériques, que ce soit l'esprit des arbres, que ce soit des ancêtres, que ce soit des saints déjà partis dans la gloire, que ce soit Marie. Non, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il est celui sur lequel nous pouvons nous appuyer pleinement. Donc Christ est le rôle des esprits. On ne nie pas leur existence, mais on les met à la bonne place, vaincus par Jésus-Christ. Voyons maintenant Christ est le rôle des rites. Les rites religieuses. Non seulement ces gens prenaient une pratique en passant par ces esprits, ces forces spirituelles, mais aussi ils mettaient en place un attachement aux rites religieux, notamment des rites juifs. Et c'est ça qui est curieux. Autant ils s'appuyaient sur une conception plutôt grecque pour les esprits, et maintenant ils vont mélanger des éléments de judaïsme dans cette pratique chrétienne. En disant aux gens, pour avoir une vie spirituelle épanouie, il vous faut la circoncision, il vous faut le sabbat, il vous faut beaucoup de rites juifs. Et c'est pour ça qu'il est pas mal question ici de la circoncision, notamment dans les versets 11 à 13. Vous le retrouvez aussi en verset 16, quand il s'agit du manger ou du boire, certainement des lois alimentaires juives, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ça, c'est tout le culte et les pratiques juives, des fêtes juives. Réfléchissant à ces rites religieux, dans beaucoup de rites religieux, on cherche à symboliser quelque chose. Et en général, on cherche à symboliser un détachement, un dépouillement des choses impures, et puis un nouveau départ. Tout le monde recherche ça dans le monde, un détachement, un dépouillement du mal, du passé, des choses impures, et puis un nouveau départ dans la pureté, dans la lumière. Et ce genre de rite, vous allez les trouver un peu partout. Il y a des lavages, comme les gens qui se baignent dans les fleuves en Inde, ou bien les pèlerinages, c'est aussi cette idée, je quitte ce qui est impur, et puis je vais vers un nouveau départ. Et la circoncision aussi était vraiment ça, un dépouillement, un détachement de quelque chose charnel, et un nouveau départ dans la vie. Et Paul dit, attendez, si c'est un dépouillement, et un détachement, et puis un nouveau départ que vous cherchez, eh bien là, vous l'avez pleinement en Christ, bien plus que la circoncision. Et il va expliquer que la circoncision est là, mais en Christ, par ce qu'il a fait pour vous à la croix, vous avez toute la réalité. Et ainsi, vous comprenez les versets 11 à 13 maintenant. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et ont été ensevelés avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous voyez, en Christ, c'est pas juste un petit bout de chair qui est dépouillé, c'est l'être tout entier qui passe par une mort et une résurrection, un nouveau départ, puisque lorsque Christ est mort à la croix, il nous a unis avec lui pour vivre ce dépouillement de tous nos péchés et un nouveau départ dans la vie de ressuscité. Et Paul va dire, non, le rite n'est rien à côté de la réalité, alors mettez l'accent sur la réalité, pas le rite. Il va dire la même chose pour le sabbat en verset 16. Et toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité, le corps, est en Christ. Donc, ne prenez pas le rite quand vous avez la réalité. Verset 16, d'ailleurs, en parlant du sabbat, ça dit clairement, si jamais vous vous êtes posé la question, que le chrétien n'est pas tenu de respecter les lois juives du sabbat. Parce que ces choses pointaient vers Jésus-Christ, le repos que nous avons pleinement en lui, par son travail, le travail qu'il a fait. Et maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas tenus à obéir les lois juives du sabbat. C'est pour ça que dans le culte évangélique, quand vous regardez notre pratique de la foi, dans nos cultes évangéliques, vous n'allez pas trouver des rites religieux, proprement dit. Parce que on a compris à travers ce passage et d'autres que les rites, oui, elles opèrent sur le corps, elles opèrent sur l'extérieur. Mais les rites ne transforment pas le cœur de l'intérieur. Les rites n'enlèvent pas le péché vraiment. Pour ça, il faut le verset 14. Christ, quand il est mort et ressuscité, c'est comme une circoncision totale. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous voyez, il a effacé un acte qui subsistait contre nous. C'est une image encore, mais c'est comme Dieu le juge, Dieu le procureur. Il pourrait bien remplir une feuille, une fiche, avec tous nos crimes, tous nos péchés, tous les articles du code pénal, le code de la justice que nous avons enfreint, il pourrait faire la liste et établir un acte contre nous. Mais Jésus, selon ce verset, il a pris cet acte et ça a été cloué à la croix. L'image là, peut-être justement, les Romains, quand ils crucifiaient quelqu'un, ils mettaient au-dessus de la tête, justement, les crimes, les condamnations. Vous vous souvenez, Jésus, on l'a mis au-dessus de sa tête, le roi des Juifs. Les Juifs n'étaient pas contents. Ils auraient voulu qu'il mette, il a dit qu'il était le roi des Juifs. Ce qui était, c'était un crime. Il fallait pas se mettre roi devant César. Mais, comme cet acte, comme nous avons, nous aurions pu, nous, avoir un acte avec nos péchés, nos crimes. Mais Jésus, il a pris. Il a pu, il a cloué, sur sa propre tête, en quelque sorte. Et il l'a éliminé, il l'a effacé parce qu'il a payé pour nous. Et là, aucun rite ne peut faire ça. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Et c'est pour ça que Paul remet au centre Christ en disant « Attachez-vous à la réalité et non pas au rite derrière. » Est-ce que cela veut dire qu'on, pour autant, se débarrasse de tous les rites, tous les symboles? Non, parce que il parle du baptême. Vous avez vu, il évoque le baptême. La vie chrétienne n'est pas dénuée de tout rite, de tout symbole. En lui, ayant été enseveli avec lui par le baptême reflète cette réalité que nous vivons avec Jésus-Christ, d'une mort, d'un dépouillement et d'une résurrection, un nouveau départ. Et nous aimons célébrer les baptêmes. Mais là encore, on ne va pas mettre le baptême au même stade que Christ et le salut qui opère. Ça reste un symbole. Donc, faire attention lorsque le rite prenne le pas sur la réalité. On avance et maintenant voyons Christ et le rôle des règles et des interdictions. Ces faux enseignants, ils profitaient des peurs que les gens avaient, notamment des esprits, des forces spirituelles dans le monde, de ces principes élémentaires, pour les obliger à suivre plein de règles qu'ils avaient eux-mêmes inventées. Donc vous avez en verset 21, « Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ». On dirait que c'est le message qui revenait souvent chez ces personnes. Ça, il faut pas toucher. Ça, il faut pas prendre. Ça, il faut pas goûter parce que tu risques de faire peur aux forces spirituelles. Et souvent, les religions ont tendance d'inventer, de penser que c'est par voie d'interdiction et de privation et de règles qu'on atteint la pureté et la sainteté. Mais combien souvent on peut constater que ça, souvent les interdictions et des privations n'opèrent pas la transformation que nous cherchons. En ce moment, l'Église catholique traverse une grande crise, notamment parce qu'à un moment, ils ont pensé que certaines règles, certaines interdictions, certaines privations, notamment concernant le mariage, selon verset 23, oui, ça peut indiquer un culte volontaire et de l'humilité et le mépris du corps. Mais ces préceptes peuvent aussi devenir pernicieux, peuvent conduire à l'abus et peuvent même pousser à satisfaire la chair, comme dit Paul. Nous vivons aussi la même chose des fois lorsque, à notre époque, dans d'autres domaines. Par exemple, si vous divinisez la nature, si la planète devient le sauveur, votre seul espoir, là, forcément, il va falloir multiplier les règles et les interdictions pour sauver cette nature. Ne prends pas ta voiture diesel pour aller au travail. Ne goûte pas la viande qui n'est pas bio. Ne touche pas du plastique. Il peut y avoir une certaine sagesse dans ces choses, mais compter sur ce genre de règles et d'interdictions pour transformer le cœur humain, on peut constater de plus en plus que ce n'est pas le cas. La clé de l'obéissance et de la pureté n'est pas dans les règles. Et encore une fois, ça va être en Christ. Et le chapitre 3 va nous le montrer surtout. Mais déjà, on a vu que Christ vit en nous. Et c'est lui qui va nous pousser à cette pureté et à cette obéissance. C'est pas tant les interdictions et les privations, mais c'est Christ, un désir de lui plaire. Un conscient qui vit en nous, qui nous remplit de sa lumière, de sa pureté. Bien sûr, on ne veut pas non plus bannir toutes sortes de tout règle ou toute interdiction. Est-ce qu'il y a des règles et des interdictions dans la vie chrétienne? Évidemment que oui. Il y a des choses que le chrétien ne prend pas, il y a des choses que le chrétien ne goûte pas, il y a des choses que le chrétien ne touche pas. Mais c'est en vue de rester, d'entretenir une relation avec Jésus-Christ. Imaginez que vous partez en vacances, vos vacances de rêve, et vous arrivez à l'hôtel ou au gîte, au chalet, et sur la porte ou sur la table, comme c'est souvent le cas, il y a une fiche avec quelques règles, quelques interdictions, le temps que vous êtes en séjour, en vacances. Est-ce que vous allez passer toutes vos vacances devant cette fiche? Est-ce que cette fiche vous passionne pendant votre vacances? Est-ce que vous allez partager cette fiche avec d'autres autour de vous? Non, cette fiche est là pour vous permettre à vivre de bonnes vacances. Vous pouvez constater rapidement la sagesse des règles et des interdictions que l'hôte vous invite à respecter. Mais cette fiche, ces interdictions, c'est pas la raison première de vos vacances. C'est pas le trait dominant de vos vacances. Vous êtes là pour jouir de la beauté de la nature, pour vous reposer, pour vous détendre. Et ces règles sont juste là pour vous aider, mais après vous passez à autre chose. C'est ça la vie chrétienne aussi. Si des règles et des interdictions deviennent plus intéressantes, plus importantes, plus motivantes que la beauté de Christ, vous êtes peut-être dans une mauvaise religion, une mauvaise église. Et il faut revenir à Jésus-Christ qui va vous pousser vers la sainteté. Donc Christ est le rôle des esprits, Christ est le rôle des rites, Christ est le rôle des règles. Chaque fois, voilà, ça nous aide à comprendre une vraie pratique de la spiritualité. Et enfin, nous terminons avec Christ et le rôle du moi. Un dernier signe d'un déséquilibre, c'est quand le moi prend le pas sur Christ. Et vous pouvez constater que les fausses spiritualités poussent souvent à l'orgueil. Et la fausse humilité qui est une forme d'orgueil. En verset 18, il dit, il parle de ces personnes, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Il parle d'une apparence d'humilité, une apparence de sagesse, mais souvent derrière il y a un orgueil, il y a un désir de juger les autres, un désir de se sentir meilleur que les autres. Vous savez, il y a certains milieux qui mettent beaucoup d'accent sur des visions, des révélations personnelles, spirituelles, des expériences mystiques qu'on peut vivre avec Dieu. Mais derrière, souvent, ça pousse souvent à l'orgueil aux personnes qui disent « Moi, j'ai un accès spécial, j'ai un accès particulier auprès de Dieu que d'autres n'ont pas. Moi, je reçois des visions. Les autres doivent faire la queue normale, mais moi, je passe dans la queue rapide. » Et c'est pas la conception de la spiritualité. Ici, non. Nous avons tous un accès plein à Dieu par Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer par les visions et les révélations personnelles, mystiques. Alors ça, encore, c'est une mesure, un critère pour juger d'une spiritualité ou d'une philosophie. Telle ou telle philosophie me pousse-t-elle à la vraie humilité? Ou est-ce que telle ou telle philosophie met l'homme au centre, ou exalte l'homme? Telle ou telle philosophie, telle ou telle religion, est-ce que ça me pousse aux actions de grâce, à la reconnaissance? Ou est-ce que ça pousse plutôt à l'autosuffisance et l'orgueil? La reconnaissance est un excellent antidote à l'orgueil, de vivre constamment dans la reconnaissance. Et là, on revient au début. Je relis ce verset que beaucoup estiment être le verset clé de toute l'épître. Je reprends les versets 6 et 7 pour terminer. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Si vous avez compris ce que Christ a fait pour vous, combien il est vainqueur, on vit dans la reconnaissance et la joie, non pas la peur envers les esprits, non pas la peur d'avoir pas accompli les rites et les règles qu'il faut, non pas dans l'orgueil, mais la reconnaissance et la joie. Alors en conclusion, voici quelques questions à se poser si on reprend les points. Est-ce que pour réussir ma vie spirituelle, on me propose de passer par les esprits? Non, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Il est le chef de tous ces êtres. Est-ce que pour réussir ma vie spirituelle, on me propose plein de rites? J'ai tout en Jésus-Christ. Il est la réalité qui comble, qui accomplit tout. Est-ce que pour réussir ma vie spirituelle, on me propose des règles, des interdictions et des privations? Non, j'ai tout pleinement en Christ. Il vit en moi. Est-ce que telle ou telle spiritualité me flatte mon orgueil? Alors, elle n'est pas bonne. J'ai tout pleinement en Christ. C'est lui le premier dans tout l'univers, le seul digne de l'être. Et je lui laisse cette place première au lieu de vouloir l'usurper moi-même. J'ai tout pleinement en Christ. En utilisant ces critères, vous pouvez vous-même grandir dans votre foi, vous enraciner en Jésus-Christ et discerner les erreurs qui circulent autour de nous. Prions pour terminer. Seigneur, encore ce matin, nous voulons te louer de nous avoir donné Jésus-Christ. Et il est meilleur que tout le reste. Il est plus grand que tout le reste. Et nous voulons mettre l'accent sur lui dans notre culte, dans notre église, dans notre pratique de la foi. Seigneur, je prie que chacun ici soit s'intéresse à la théologie, à la bonne doctrine, parce que c'est ça qui va nous aider à dépister les erreurs, à ne pas s'embarquer dans des fausses spiritualités, mais de pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. Nous voulons avoir ces racines que même quand la vie autour de nous nous trouble, nous pouvons tenir ferme, ne pas être renversés, ne pas être déstabilisés, parce que notre foi est fondée en Christ qui, lui, ne bouge pas. Merci pour ce culte que nous avons vécu ensemble ce matin. Je te prie que tu encourages chaque cœur, que tu nous donnes maintenant la force d'aller dans ce monde et de vivre notre foi, d'être respectueux des autres croyances, mais aussi de leur montrer que Christ est meilleur que tout cela. Que notre témoignage donne envie de connaître ce Jésus que nous aimons et que nous voulons exalter encore ce matin. Et c'est en son nom que nous prions. Amen.